Cette année 2020 aurait été marquée pour chacun d'entre nous par un certain nombre d'événements plus ou moins heureux ou plus ou moins tristes et plus globalement par cette pandémie du Covid-19. Ce virus n'aura pas uniquement frappé notre santé physique, mais également impacté durablement notre capacité en tant que société à agir d'une seule voix. En effet, de nombreuses voix discordantes se sont fait entendre, animées pour certaines d'entre elles par un désir pathologique d'exister médiatiquement, pour d'autres par un besoin incessant de se placer en vue de la prochaine échéance électorale. Certains scientifiques et politiques se sont donc retrouvés dans le même camp, celui du manque de tenue et de hauteur, celui de l'absence de conscience du bien public et de l'État. Qui songerait à compter ses sous au moment de mourir? Et pourtant, les occasions passent, les déceptions restent. Rajoutons à cela les réseaux sociaux et leur cortège de pseudo-experts et leurs partisans, recrutés sur base d'un besoin profond de ne pas faire comme tout le monde, de faire partie de la minorité résistante, et nous aurons une petite idée de ce que nous vivons depuis bientôt un an. C'est toujours face à l'obstacle que l'on mesure la grandeur des êtres ou leur petitesse. Sur ce point-là, du moins, j'ai vu. Et j'ai pris note. En ce qui concerne notre Église, c'est forcément notre capacité à faire communion, à prendre soin les uns des autres qui a été la plus fortement impactée. La pandémie a mis fin à toutes les activités d'Église, ou presque, même si des groupes se réunissent par Zoom ou d'autres moyens informatiques, que nous devons les cultes filmer directement à cette pandémie. Et que certains accompagnements pastoraux perdurent en présentiel avec mesures de précaution et restrictions d'usage, bien entendu. Cette immobilité due au Covid a au moins un avantage à mes yeux. Nous montrer à quoi ressemblerait notre vie d'église, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne si rien ne devait plus jamais changer. Alors je suis sûr que pour certains d'entre vous, il y aurait des manques, les mêmes manques aujourd'hui, mais d'autres s'acclimateraient sans doute malheureusement à la situation. Ce que je veux dire, c'est que si cet immobilisme, cette vie au ralenti due au Covid, est une belle image de notre propre immobilisme intérieur. Cette pesanteur qui, depuis des années, parfois nous fait vivre un confinement spirituel intérieur, comme si la vie de l'Esprit-Saint en nous avait dû fermer boutique pour cause de pandémie spirituelle. Nous souffrons tous de cela, et les symptômes nous sont bien connus. Notre prière a un goût de sang, nous pouvons passer une journée entière sans penser à Dieu. La lecture de la Bible se fait plus rare, et quand elle se fait, c'est plus par devoir ou culpabilité que par réel désir de rencontrer Dieu. L'Esprit-Saint, quant à lui, ne semble plus avoir aucune influence sur nous, sur notre comportement, sur la façon dont nous envisageons les choses. Nous sommes du blé et pourtant nous faisons l'effet de n'être qu'un plant enivré. Et si nous l'ignorons, les autres, eux, l'ont bien remarqué. Quant à notre voix et ce qu'elle pourrait apporter au monde, à savoir une parole de vie agrémentée de sel, elle est inaudible car elle reste coincée dans le fond de notre cœur. Alors les remèdes à cet immobilisme intérieur existe et nous allons en voir certains, avec comme secret espoir que cela nous aide à faire de l'année 2021 une année spirituellement bénie pour chacun d'entre nous, pour notre Église et pour ceux qui nous entourent. Cela dit, rien ne sera facile, car rien de ce que notre Seigneur attend de ses disciples ne l'est, humainement parlant. Il ne s'agit donc pas ici d'une recette toute faite et prête à l'emploi qui nous offrirait le luxe de ne pas apprendre à cuisiner. L'apprentissage fait partie de l'expérience humaine, quelle qu'elle soit, et quels qu'en soient les domaines, et la vie spirituelle n'échappe pas à cette règle. Les quelques points que je vais brièvement aborder maintenant, vous pourriez les retrouver dans quasi tous les livres de la Bible. Mais j'ai choisi de les aborder en prenant le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Alors, quelques mots tout d'abord sur Néhémie, histoire de nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en 446 avant la naissance de notre Seigneur, donc ça ne date pas d'hier. Néhémie est un juif qui sert le vin à la table du roi de Perse Artaxerces. Alors que l'on ne s'y trompe pas, c'est un travail très important et très en vue. Car très souvent, ce ne servait aux tables des rois de l'Antiquité que des hommes issus de la noblesse conquise, des hommes qui avaient donc été déportés après la chute de leur royaume. Quand je vous aurais dit qu'il était considéré comme un privilège de voir le roi tous les jours, alors que sa propre épouse ne pouvait le voir que si le roi la convoquait en sa présence, vous comprendrez sans doute que la fonction, pardon, était d'importance et revêtait même une forme de prestige. Néhémie ne peut donc pas être comparé à un garçon de café, même si j'ai un immense respect pour cette profession. Il faut que je vous dise encore que cette fonction d'échanson, de sommelier du roi, était non seulement une fonction d'honneur et de prestige, mais également de confiance. En effet, l'échanson devait goûter les vins avant le roi pour vérifier tout simplement que ceux-ci n'avaient pas été empoisonnés. Le propre père d'Artaxerces, Xerxès, pas évident à dire à la suite, hein, était d'ailleurs mort empoisonné. Enfin, il fallait pour exercer cette fonction être d'humeur toujours égale. Hors de question, par exemple, de paraître en présence du roi triste, maussade ou de mauvaise humeur, sous peine de risquer la prison ou même pire, la mort. Dernier détail, la famille de Néhémie avait été déportée en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, ce qui signifie que Néhémie était né en captivité et qu'il n'avait donc jamais vu Jérusalem. Objet, nous le verrons, de toute son attention et au centre du livre qui porte son nom. Venons-en à notre remède contre l'immobilisme et à la situation dans laquelle se trouve Néhémie. Au début du livre, Néhémie reçoit des nouvelles de Jérusalem et en particulier de sa muraille, donc la muraille extérieure entourant la ville. Eh bien, la muraille entourant cette ville avait été détruite et brûlée par le feu 140 ans plus tôt par les armées babyloniennes. Alors, la pratique était courante lorsqu'une ville tombait aux mains d'un souverain étranger. Non seulement cette pratique laissait la ville sans défense, mais elle marquait également la destruction d'un royaume de manière irrémédiable. Ne plus avoir de murailles signifiait pour une ville, un pays, un peuple, ne plus avoir d'autonomie, plus de roi sur le trône, plus de patrie libre, plus de monnaie, plus d'adoration de son ou ses dieux, plus d'identité souveraine. C'est pour cette raison, et la Bible relaie ces informations dans les livres prophétiques et historiques, que les rois préféraient souvent payer de lourds tributs aux empires de l'époque que de risquer de tout perdre par une prise de leur capitale avec son cortège d'horreur et sa fin dès lors inéluctable. La destruction définitive de la ville, la mise à mort massive de ses habitants et de sa famille royale, et la déportation du reste de sa population dans le pays conquérant pour y servir d'esclave et parfois, lorsqu'on était bien né comme Néhémie, pour y servir à la table du roi. Néhémie apprend donc par l'un de ses amis que les murailles de Jérusalem gisent à terre et cette nouvelle bouleverse profondément le sommelier du roi. C'est assez intéressant de se dire qu'est-ce que cette nouvelle le bouleverse parce que ça fait 140 ans que les murailles se trouvent par terre. J'ai envie de dire que moi j'y vois ici un petit signe de la présence du Saint-Esprit qui fait prendre peut-être pour la première fois conscience à Néhémie qu'il y a effectivement un problème et éventuellement une solution à ce problème. Néhémie est tellement bouleversé qu'il prie Dieu, probablement pour la première fois, en tout cas pour ce motif-là. Et je vous invite pour commencer à nous arrêter sur cette prière, cette courte prière. Voilà ce qu'il dit. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Grande liberté de parler à Dieu, là. Il s'adresse à Dieu, bien entendu. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour des serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain. Nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Premier élément que nous pouvons dégager de ce passage, la repentance et la prière. Alors oui, je sais. Je sais, on en a déjà abondamment parlé, que ce soit de la repentance ou de la prière. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on en a beaucoup parlé, que nous ayons compris l'importance de celle-ci dans notre vie de tous les jours. Si on avait compris l'importance, on passerait sa vie à genoux, en fait. Hein, c'est aussi bête que ça. Et je ne pense pas que ce soit le cas de qui que ce soit ici dans la pièce, moi compris. Et nous ne le faisons pas, nous n'avons pas compris cette dimension et cette importance, probablement parce que nous sommes tellement imbibés de la grâce de Dieu, ce qui, en l'occurrence, est une bonne chose. Nous sommes tellement imbibés de la grâce de Dieu envers nous que nous en oublions de nous sanctifier. On ne se purifie pas. Il n'y a dans la prière de Néhémie, vous l'aurez remarqué, aucun d'égocentrisme. Néhémie ne prie pas pour lui, mais pour le peuple, en confessant les péchés de ce peuple et les siens. Nous verrons d'ailleurs qu'en cas de réussite de sa mission, il n'en retira pour lui-même aucun bénéfice personnel à part d'avoir fait ce que il lui semblait juste aux yeux de Dieu. Il ne restera pas à Jérusalem, il devra retrouver sa fonction auprès du roi Artaxerxès. Il n'est pas question pour lui de rester à Jérusalem et de bénéficier de la nouvelle muraille, de bénéficier de la reconstruction de la ville. Rien de tout ça, il devra rentrer, entre guillemets, chez lui et reprendre sa fonction de sommelier du roi. C'est donc totalement une démarche désintéressée de la part de Néhémie. Il a aussi une vision très réaliste des choses et ne s'estime pas meilleur que les autres. Il sait qu'il fait partie d'un tout et qu'on ne se sauve qu'en sauvant tout le monde, en fait, en ne laissant personne sur le bas de côté de la route. Il aurait pu dire à Dieu, moi, je suis exempt de ce péché, moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Puni à la limite, même, envoie le feu du ciel, comme certains, hein, sur la tête de tous ces gens ou de tous leurs descendants. Et on peut donc déjà tirer une application de tout ceci à un groupe constitué, que ce soit un peuple ou en l'occurrence, en ce qui nous concerne, une église, est faite de pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et de la nôtre. Parce qu'en priant pour toutes ces générations passées, Néhémie, quelque part aussi, il prie pour les péchés de son peuple. Parce qu'il sait que tout le monde a besoin de la grâce de Dieu et de la nôtre, de la prière de notre Seigneur et de la nôtre. Jésus prie en permanence pour nous, mais nous avons comme responsabilité de prier en permanence les uns pour les autres. Et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, il en est ainsi parce qu'un peuple, et a fortiori une église, la nôtre par exemple, est la somme de ses faiblesses et de ses forces, ni plus ni moins, et de sa capacité à voir les autres et soi-même honnêtement, et de notre vie de prière. Il y a ces trois éléments. Notre prière pour les autres, parce que nous savons que les autres sont pécheurs, notre prière pour nous, notre demande de pardon personnel envers Dieu pour nos péchés à nous, et donc de notre vie de prière. Parce que s'il n'y a pas cette vie de prière, j'ai envie de dire que rien ne bouge. Nous sommes en quelque sorte uniquement ce que nous sommes sincèrement devant Dieu lorsque nous prions. C'est là la première leçon, la leçon importante que nous enseigne Néhémie. Tout comme la situation du peuple d'Israël n'était pas le fait d'une personne ou deux, l'Église et son vécu n'est pas le problème du pasteur. Ça, je suis content de le dire. En tout cas, pas seulement. Ni des anciens. C'est notre problème à tous. Autrement dit, quand des choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, quand des choses manquent ou ne sont pas parfaites, j'en suis individuellement responsable autant que tous les autres. Et cela nous ramène à l'image du corps de Christ développée par Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, parce que c'est exactement ce que Paul dit. Alors j'ai pris quelques passages, pas tout le chapitre, ça aurait été trop long. Et que nous dit l'apôtre? Eh bien que le corps, donc l'Église, forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Nous avons été, dans d'autres traductions, nous avons été abreuvés par un seul esprit. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. En d'autres termes, nous ne sommes pas des îles. Que nous le voulions ou non, que nous l'ayons compris ou non, nous ne faisons qu'un. Nous sommes solidaires, nous dit Paul, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. La preuve de ce que j'avance, et je reviens à Némi, c'est qu'il n'était pas responsable de la désobéissance de son peuple. La ville de Jérusalem n'avait pas été détruite à cause de Némi. Pourtant, il intercède. Il demande pardon. Parce qu'il sait que la désobéissance qui avait provoqué la colère de Dieu et conduit à la destruction de Jérusalem était une réalité. C'était bien la colère de Dieu qui avait détruit la ville de Jérusalem au travers des Babyloniens, mais Néhémie sait très bien que celui qui a détruit la muraille, qui a détruit la ville, ce ne sont pas les Babyloniens, c'est Dieu. Néhémie ne pourrait pas être responsable de ce qui s'est passé à Jérusalem, il n'était même pas né. Et pourtant, il dit dans sa prière à Dieu, « Je suis responsable de ce qui s'est passé. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il n'est pas meilleur que les autres. Et il le sait. Il se sait pécheur comme les autres et n'a donc qu'une option pour que les choses changent. Prier en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu et sur ses promesses. Il ne peut s'appuyer que là-dessus. Néhémie 1, versets 8 à 9. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Il cite le Deutéronome. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été infidèles, ils ont été dispersés. Ils ont été punis, si vous préférez. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Autrement dit, je vous ramène où? À Jérusalem. Et je rappelle que quelques années avant Néhémie, un contingent juif était revenu de déportation de Babylone à Jérusalem pour reconstruire le temple. S'ils ont mis 16 ans à faire quand même, ils ont attendu 16 ans sans rien faire. Alors il y a d'abord ici le constat de la situation, la prise de conscience profonde du pourquoi les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Et c'est d'ailleurs à mon sens la raison pour laquelle Néhémie pleure devant Dieu. Il ne pleure pas sur la muraille détruite, mais pour la cause de cette destruction et ses implications. Le peuple a été puni, le trône du royaume de Juda n'existe plus depuis 140 ans. Le temple est détruit, la ville est détruite, la muraille est détruite, il ne reste rien de ce qui avait fait la fierté du peuple juif. Il ne reste en fait qu'une seule chose sur laquelle s'appuyer, les promesses de Dieu. Si on te demande pardon, tu as promis de nous ramener à Jérusalem et de reconstruire la ville. Autrement dit, si nous devons d'être lucides, voir que nous sommes pécheurs et prier pour nos péchés et pour ceux de nos frères et sœurs, nous nous devons également de nous souvenir des promesses de Dieu. Il faut un équilibre là. Si on passe sa vie, et il faut le faire tous les jours, hein, à voir son péché et celui des autres, il faut aussi continuer à faire confiance à Dieu et à baser notre vie, notre avenir en tant qu'Église et en tant qu'être humain, en tant que chrétien, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a dit qu'il ferait. Et bon, lisez l'Évangile, hein, je n'ai pas listé toutes les promesses que Jésus nous fait en tant qu'Église, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors bien sûr, il y a nos désobéissances. Bien sûr, je l'ai dit, il y a notre immobilisme, notre égocentrisme, notre désir médiocre de ne pas perdre un centimètre carré de nos petites vies insignifiantes. Mais il y a aussi le désir que nous avons de plaire à Dieu. Les deux cohabitent, du moins je l'espère, encore. Et à tout péché, miséricorde. Il n'est jamais trop tard pour s'appuyer sur ce que Dieu veut faire dans nos vies. Élément suivant pour vaincre l'immobilisme. Je suis en grande partie la réponse à ma prière. Il ne suffit pas de prier, il faut agir. Rappelez-vous l'image de la barque que j'ai déjà employée. Hein. Il est beau mon rameur. Hein. Enfin là, il n'a pas l'air de ramer beaucoup. Mais... Alors l'une des rames est la prière. L'autre rame est l'action. Si vous vous contentez de prier, la barque de votre vie tournera en rond. Si vous vous contentez d'agir sans en référer à Dieu par la prière, là encore, vous tournerez en rond. Si vous voulez que votre vie spirituelle, que votre relation à Dieu vous mène quelque part, il va falloir faire les deux. Vous voulez que votre voisin se convertisse? Vous priez pour lui? Ça serait déjà bien de commencer. C'est magnifique, hein? Mais allez lui parler. Parlez-lui de Jésus. Montrez-lui de l'attention. Montrez-lui de l'amour. Autrement, rien ne se passera. Jamais dans la vie de personne. Néhémie fait le bilan de la situation. Il est lucide quant aux raisons de ce bilan négatif, puisque, encore une fois, les murailles sont par terre. Il va donc mettre en route le programme de restauration et de résolution du problème. Il commence donc par prier et par reconnaître devant Dieu ce qui est, et il implore le pardon pour lui et son peuple et invoque la promesse de Dieu. Ensuite, il demande à Dieu de lui être favorable lors de la première étape de son plan pour reconstruire la muraille. Et là, il est encore à 10 000 km hein, de Jérusalem. Mais son plan commence là. Car Néhémie a décidé que ce serait lui, l'instrument de Dieu, qu'il serait la réponse à sa propre prière. Il ne va pas compter sur les autres, il va d'abord compter sur lui. Après, dans le livre, on ne verra pas ça aujourd'hui, après, dans le livre, il va s'entourer, il va donner des directives à plein de gens. Il ne va pas pouvoir reconstruire pratiquement cette muraille tout seul. Mais à l'origine, il n'y a qu'un homme et sa volonté de faire ce qui est juste et de faire ce que Dieu, quelque part, attend, en fait. Il est clair, d'après le texte, qu'il ne se contente pas de demander à Dieu d'envoyer quelqu'un, mais surtout quelqu'un d'autre. La muraille est par terre. Envoie quelqu'un, Seigneur, mais pas moi. Moi, j'ai un boulot, écoutez. À la fin de la journée, je suis claqué, il faut arrêter. Moi, il ne faut rien me demander. Mais nous faisons souvent ça, me semble-t-il. Que quelqu'un d'autre parle de sa foi, que quelqu'un d'autre prie, que quelqu'un d'autre prenne des nouvelles des plus fragiles, que quelqu'un d'autre soit sympa avec mes collègues, que quelqu'un d'autre ait compassion de quelqu'un de difficile à vivre. Demande ça à quelqu'un d'autre, Seigneur. En d'autres termes, que quelqu'un d'autre reçoive aussi la bénédiction de Dieu dans cette vie et les récompenses dans l'autre. Parce qu'on rate cette partie-là du problème aussi. Hein. C'est qu'un jour, on passera devant Jésus, on va tous passer pour des cloches. Hein. Vous ne pensez jamais à ça? Moi, j'y pense quasi tous les jours. Hein. Tous les jours, j'y pense quasi. Néhémie prend la décision, parce que c'en est une, que l'homme de la situation, c'est lui. Il a la réponse à sa prière. Ce n'est pas Dieu qui le désigne. C'est lui qui décide d'être vecteur de changement, même si à titre personnel, je pense quand même que l'Esprit-Saint doit être quelque part en partie responsable de tout ça. Surtout à travers les larmes de Néhémie, cette intensité dans sa prière, je me dis que voilà, si ça fait tilt, si je peux dire ça comme ça, ce moment-là, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et si je dis ça, je dis ça d'autant plus que dans un autre livre, le livre d'Esther, c'est le livre par excellence d'une grande libération de Dieu, de son peuple. Le nom de Dieu n'est jamais cité dans ce livre. Et pourtant, dans les coulisses, c'est Dieu qui agit. Incognito. Alors, y aura-t-il des obstacles à ce que Néhémie veut faire? Il a prié, il a décidé, est-ce qu'il va avoir facile? Ben non. Il y aura des obstacles. Relisez le livre, hein, si vous avez l'occasion cette semaine. Il y aura même beaucoup d'obstacles. Mais c'est souvent le premier d'entre eux qui est le plus susceptible de décourager même les plus téméraires. C'est le premier obstacle qui pose souvent problème, parce que c'est le premier obstacle que nous n'osons pas affronter. Et c'est le cas de Néhémie, et dans le cas de Néhémie, le premier obstacle à affronter pour pouvoir commencer à réaliser son projet, c'est Artaxerxès. C'est le roi lui-même. Il ne va pas pouvoir fuir la cour du roi. S'il faisait ça, il serait repris, il serait tué. Il va devoir parler au roi. Je rappelle quand même que c'est un roi de l'Antiquité. Ce n'est pas le roi Philippe. même s'il y a un gros protocole aujourd'hui, à l'époque, le protocole. Donc, c'est donc le roi du plus grand empire de l'époque. Et voilà ce que dit Néhémie. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Là aussi, ici, quand il n'est pas tout seul, encore avoir quelque chose à faire de Dieu. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme étant le roi, bien entendu. Il termine le chapitre 30 en disant: J'étais le responsable des boissons du roi. Néhémie sait qu'il risque sa vie s'il paraît triste en présence du roi. Et là, il est triste. Je ne sais pas vous, moi, quand je ne suis pas bien ou je suis triste, je ne sais pas comment c'est à faire semblant d'être bien. Certains savent sans doute, moi, je ne sais pas faire. Mais d'un autre côté, pour Néhémie, cacher sa tristesse ne lui servira à rien, car s'il le faisait, ne pouvant pas lui-même prendre l'initiative d'adresser la parole au roi, parce que c'était la mort assurée, vous ne pouviez pas adresser la parole au roi s'il ne vous avait pas interrogé. Bien, si il ne paraissait pas triste, le roi ne risquait pas de voir quoi que ce soit de différent de son attitude habituelle, et donc le roi ne risquait pas de lui poser des questions qui risquaient de libérer la situation. Il a donc paru dans la présence du roi, le visage déconfit. Le premier obstacle franchi, paraître en la présence du roi avec l'air triste, il y en a un autre à franchir, et un solide. Je reprends Néhémie 2, versets 1 et 2. Au mois de Nissan, donc c'est mars-avril, hein, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du roi au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé: Pourquoi tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Il dit, bon, il est amoureux, ça se passe mal. Mais c'est sympa encore, hein, comme attention, je trouve. Et là, le texte continue, de saisi d'une grande frayeur. Néhémie qui parle, saisi d'une grande frayeur, après il va parler. Mais il est saisi d'une grande frayeur. Ah, il va parler, c'est super, mais que va penser le roi de ce qu'il va lui dire? Je ne pourrais pas être heureux, Seigneur, en sachant que la ville de mes ancêtres est par terre, que là où résident les sépulcres de mes ancêtres, il n'y a plus rien debout, etc. Voilà donc un autre obstacle de taille, et cet obstacle, vous l'aurez compris, c'est la peur. Surmonter sa peur revient souvent en fait à vaincre tous les obstacles. Autrement dit, l'obstacle le plus grand à ce que la parole de Dieu et la volonté de Dieu se réalisent dans nos vies et dans celles de son Église pour revenir à nous, eh bien, c'est de vaincre notre obstacle intérieur qui est la peur. Nous sommes des peureux, mes amis. Nous avons peur de parler de notre foi. Si vous j'ai tort, vous pourrez me dire après. Hein. Nous avons peur de passer au mieux pour un doux rêveur ou pire pour un fou infréquentable. Nous avons peur de perdre nos proches, peur du regard des autres, peur de mal faire aussi, de ne pas parler assez bien. Nous avons peur de participer au changement que Dieu veut opérer en nous, car contrairement à ce que nous disons tout haut, nous savons que tout bas, c'est tout autre chose. Nous aimons nos péchés, nous aimons montrer qu'on ne peut pas marcher sur nos pieds, nous aimons que les gens nous respectent et nous aimons nous faire respecter. Nous aimons avoir raison et imposer nos raisons aux autres. Nous sommes tellement attachés à ce qui participe à notre immobilisme intérieur que cela fait partie de nous, de notre nature humaine. On est attaché à tout ça. Il est donc hors de question de pardonner, d'arrêter de justifier notre colère, d'arrêter de remettre les autres à leur place, de supporter de petites injustices, parce que ce qui compte encore et toujours, c'est nous. Et rien que nous. C'est tout ce qui compte. Alors que, mes amis, ce que nous devrions craindre, c'est de ne pas changer. C'est que rien ne change. Car cela pourrait bien vouloir dire que l'esprit produisant le vouloir et le faire, comme le dit Paul, n'est pas en nous. Et c'est rien qui change. Il faut te poser les bonnes questions, non? Et s'il est là, l'esprit? Alors nous ferions bien mieux de craindre ce que Jésus nous dira lorsque nous comparaîtrons devant lui. Vous avez toutes les références, hein, bibliques dans le texte. C'est ça qu'il faudrait craindre. Nous avons peur de beaucoup de choses, mais pas des bonnes choses, me semble-t-il. Alors Néhémie a vaincu sa peur car elle savait qu'il était la réponse de Dieu à sa prière. Ça, je pense que nous n'avons toujours pas compris que nous sommes la réponse de Dieu à notre propre prière. Que nous sommes tous appelés, tous élus pour le servir. Et le jour nous comprendrons ça. Peut-être que des larmes de repentance et de gratitude couleront sur nos joues à nous aussi. Car qui sommes-nous pour que Dieu choisisse de nous faire confiance, de nous utiliser dans son œuvre? Comme le dira plus tard Jésus en Luc 17, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, donc imaginez, vous faites tout ce que Dieu vous demande, dites-vous à vous-même, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Lequel d'entre nous devant Dieu aujourd'hui peut dire qu'il a fait tout ce que Dieu demandait qu'il fasse ?» Alors, la difficulté de ce que je suis en train de dire, je sais bien, c'est de remettre ça. Mais il faudrait que vous preniez du temps pour faire ça. Moi, le premier. Hein. Mais c'est ça aussi, passer du temps avec Dieu. C'est qu'il faudra remettre votre vie devant Dieu et essayer, avec beaucoup de courage et de lucidité, voir ce qui ne va pas vraiment. Et d'arrêter de justifier ce que Jésus ne justifie pas. Nous savons quelle a été la réponse d'Artaxerxès à la demande de Néhémie. Néhémie a demandé d'aller à Jérusalem, a demandé de pouvoir être à l'origine de la construction de la muraille. Et le roi a dit « Ok, incroyable. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors « Combien ton voyage durera-t-il » Ça veut dire que tu peux aller, quoi. « Et quand seras-tu de retour ?» Ça, c'est sympa parce que quelque part, il est peut-être un peu attaché au gars, il a fait un bon service, voilà. Il plut au roi de me laisser partir et je lui ai fixé un temps. Et après ça, Néhémie va lui demander des lettres de recommandation pour pouvoir avoir pour les gouverneurs, hein, les satrapes, comme on les appelle, les gouverneurs de l'Empire perse. Il va pouvoir avoir du bois gratuitement, l'appui de la logistique perse pour mener à bien son projet. Tout ça parce qu'au départ, il fait confiance à Dieu, il sait qui il est, il sait qu'il est appelé, comme nous, et il fait ce que son Seigneur lui a placé sur le cœur. Il a eu peur, un moment, et après, voilà. Alors, ce que Néhémie a fait, nous pouvons le faire nous aussi, tout au long de cette année 2021, qui s'ouvre devant nous. Encore une fois, le choix est nôtre. Nous pouvons prier avec foi et en ayant le courage d'accepter que Dieu nous réponde, en faisant de nous la réponse à notre prière et l'expression de sa volonté. Nous pouvons prier avec sincérité et lucidité quant à notre état spirituel et joindre à notre péché celui de nos frères et sœurs. Chaque fois que vous confessez vos péchés, ben, intercédez pour vos frères et sœurs parce qu'ils en ont aussi. Notre Dieu est le seul être au monde qui se réjouisse de recevoir en cadeau tous les jours les torrents de boue sortant du cœur de ses enfants. Je ne sais pas si moi j'aurais aimé, quand ma fille était petite, qu'elle amène ses châteaux de sable dans mon bureau, ouais, et qu'elle commence à patauger dedans. Voilà. Ben Dieu, il adore ça, il aime ça. Il aime ça. L'expression « la foi du charbonnier », c'est de laquelle vient. C'est qu'un charbonnier, il est dégueulasse à la fin de la journée, travail. Il est noir. Et Dieu aime ce genre d'attitude. Qu'on vienne devant lui en disant « je suis noir », façon de parler, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Je suis couvert de péché, je suis en dessous de tout, mais je m'approche de toi parce que je sais que tu peux me laver et me purifier de tout ça. Nous pouvons agir en cette année 2021 et accepter l'appel au changement que nous adresse notre Seigneur. Nous pouvons transformer la peur des autres par la crainte de Dieu, la peur de tout ce qui est en nous et autour de nous par la crainte de Dieu. Cet autre nom que porte l'amour quand il est tourné vers un plus grand que soi. Nous pouvons vivre cette vie difficile, mais exaltante, la seule qui soit digne de lui. Si vous commencez à parler votre foi, c'est clair, vous allez prendre des retours de manivelle, mais au moins vous serez vivant. Nous pouvons enfin nous réjouir que durant cette nouvelle année, nous aurons des tribulations. C'est Jésus qui l'a dit. Sachant que Dieu n'appelle jamais personne à des choses faciles. L'évangile, c'est tout sauf facile. Vivre la loi de Dieu, c'est tout sauf facile. Pardonner, c'est tout sauf facile. Et accepter de n'être plus ce que l'on est pour laisser Dieu faire de nous ce que lui veut, c'est tout sauf facile. Donc, si vous aimez la facilité, vous n'avez pas choisi le bon endroit. Et le choix est nôtre. Ça, c'est la liberté que Dieu donne. Vous avez le choix. Avec les conséquences qui vont avec. Alors aujourd'hui, peut-être ici-bas, ça ne vous percute pas. Mais un jour, croyez-moi, ce ne sera pas drôle. Ce ne sera vraiment pas drôle. Alors on pourrait croire, si on s'arrêtait là, que pour Néhémie, le plus dur est fait. Vous vous rendez compte? Il a prié, ok, il a confessé, très bien. Et puis il dit, bon, maintenant il faut que je parle au roi, comment je vais faire ça, etc. S'il est mal luné, le roi il va me couper ma tête. Mais vraiment, hein, aussi simple que ça. Hein. Ma tête va rouler tout de suite. Hein. Il y a des guerres dans la salle où il mange, etc. Schlag, un geste, et Néhémie est mort. Et Dieu a répondu, et le roi est d'accord, il va partir, il a l'argent, il a les lettres, il a tout ce qu'il faut. Là, on se dit, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qui peut encore lui arriver? Ah oui, sans blague. Eh bien, ça va pas s'arrêter. Hein. Ce n'est pas la fin des problèmes. Il a surmonté un gros problème, mais maintenant il va falloir surmonter les petits problèmes. Ça, c'était un gros problème, c'est un one shot, il est passé. C'est un one shot, c'est 30 secondes de peur, et c'est bingo. Génial. Après, ça va être des petits problèmes, tous les jours. Un amoncellement de petits problèmes, de petites oppositions. Et c'est là qu'il faut tenir. Néhémie 2, verset 10. Sanballat, le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, des peuples ennemis d'Israël. L'ayant appris, donc ayant appris qu'arrivait un émissaire du roi avec comme mission de reconstruire la muraille, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ils vont tout faire, ces hommes, pour que la reconstruction ne se fasse pas. Ils vont s'opposer en permanence. Autrement dit, les obstacles continuent, les problèmes continuent. Et même s'ils paraissent au premier abord, je l'ai dit, du moins moins effrayants que ceux que Néhémie a dû affronter jusque-là, pour moins effrayants qu'ils sont, ils seront plus nombreux et ils mettront dès lors l'entreprise de Néhémie en danger. Car celui-ci allait devoir acquérir une chose au cours de sa mission. Et c'est une chose que Dieu veut nous voir acquérir. Et c'est pour ça que les problèmes existent dans nos vies et que nous sommes appelés à les surmonter. Cette chose que Dieu veut voir apparaître dans nos vies, c'est la persévérance. Qualité indispensable pour mener à bien ce que Dieu confie à Néhémie et ce qu'il nous confie. Parce qu'à la réflexion, mes amis, si on va un peu plus large, qu'est-ce que Dieu a confié à Néhémie comme responsabilité? Gérer sa propre vie. Vivre sa vie comme Dieu lui demandait de la vivre, c'est tout. Et un petit peu plus. Et ça, c'est sa prière qui nous l'apprend. Il y a sa vie, il y a Dieu, et puis il y a la vie des autres. Et en ce qui nous concerne, je vais rajouter un élément. Dieu, ma vie, la vie des autres autour de moi et l'évangile que Dieu m'a confié. Et ça, c'est notre mission à chacun et c'est notre mission en tant qu'Église. Je vous souhaite une bonne année à tous. Amen.